Jamais 203. Format A3.
Jésus en 12 questions impertinentes. C'est un livre du pasteur et docteur en théologie Gilles Bourquin qui donne une conférence ce soir à 20h au Musée Jurassien d'Art et d'Histoire à Delémont sur l'invitation de l'Université Populaire Jurassienne.
Alors bon, 12 questions impertinentes, autant de questions que de disciples, mais des questions, il y en a probablement plus, les questions qui peuvent peut-être paraître un peu légères, mais finalement, elles sont assez précises et puis c'est des questions qu'on s'est tous posées un jour ou l'autre.
Gilles Bourquin, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes docteur en théologie, journaliste et pasteur. La question que je me pose pour commencer, c'est si vous aviez été catholique, est-ce que vous auriez pu écrire le même livre ?
J'aurais pu, oui. Je pense que dans notre société, il y a suffisamment de brassage intellectuel et de liberté pour que, en tant que catholique aussi, j'ai pu écrire ce livre. Je l'aurais écrit sans doute différemment, avec d'autres arrière-fonds, avec une autre culture de base. Mais je pense que tant les catholiques que les protestants, que n'importe quelle personne, se posent aujourd'hui des questions basiques, je dirais, sur la personnalité de Jésus.
Les catholiques, les protestants, les athées également, ils se posent des questions sur Jésus ?
J'ai l'impression que, oui, alors c'est le préavis de mon livre, c'est-à-dire que c'est un personnage suffisamment marquant de l'histoire humaine pour que n'importe quelle personne de n'importe quelle religion, culture ou confession puisse se poser des questions sur lui, comme nous nous posons des questions sur Bouddha ou sur Platon ou sur des personnages incontournables de l'Antiquité, bien que Jésus ait été un inconnu à son époque.
Donc ce livre, c'est aussi le moyen de vous adresser, vous, en tant que théologien, à des personnes qui ont de la peine à y croire ou qui sont même athées. C'était le but ?
C'est un des buts, oui. Ça décloisonne. C'est un décloisonnement, c'est-à-dire que ça va décloisonner les athées de leur athéisme et ça va peut-être décloisonner les croyants de certaines croyances un peu trop vissées, un peu trop bétonnées.
Alors vous posez réellement 12 questions toutes simples. Hein. Est-il vraiment le fils d'une femme vierge ? Était-il vraiment un guérisseur ? Était-il un doux rêveur ? Beaucoup d'autres. La question est de savoir s'il a réellement d'exister. Et puis, où se trouve la frontière entre l'homme, puisque Jésus est homme, et le saint des saints, puisque c'était un saint.
Mm-hmm. Voilà, donc vous avez...
Mais c'est vrai, où est-ce que vous situez la barrière, vous, Gilles ?
La barrière entre... Mais la façon dont vous posez la question est déjà très catholique, si j'ose dire.
Ben pour une fois, parce d'habitude, ce que je pose comme question, c'est pas très catholique.
Exactement. C'est une grande première.
N'empêche que là, dans le subconscient, vous avez... Oui, parce que vous voulez départager de façon assez radicale, comme ça, le sacré du profane, ce qui est une posture religieuse traditionnelle, alors que, me semble-t-il, on peut justement comprendre le personnage de Jésus comme un personnage qui a fluidifié la frontière entre le sacré et le profane, c'est-à-dire qui se présente à la fois comme étant le Fils de Dieu, c'est-à-dire, on va dire, l'être humain, le plus élevé, le plus proche de Dieu sur terre, mais à la fois l'ami des pécheurs, même l'ami des prostituées. Donc il se fait proche de tout un chacun, proche du quidam. Et par conséquent, il va fluidifier, il va pas distinguer en deux blocs bien séparés ce qu'est le sacré et ce qu'est le profane. Peut-être que tout être humain comporte en lui quelque chose de sacré et ça fait partie du message de l'Évangile.
Alors, Gilles Bourquin, vous êtes théologien, mais également biologiste.
Non, je ne suis pas biologiste.
Mais c'était de vos patients au début.
Oui, alors,
je sais. Hein,
ça, c'est juste.
Je sais.
Hein, il sait, Jean-Michel.
Il disséquait les petites grenouilles quand on était à l'école.
Alors, voilà, justement, une passion.
C'est salaud, je disséquais pas les grenouilles.
Non, les têtards.
Ouais,
15.
Disséquais.
Justement, est-ce qu'entre cette passion de biologiste et le fait que vous soyez théologien, est-ce qu'il y a un peu des divergences entre les deux, en sachant que entre scientifique et théologien, on n'est pas forcément toujours d'accord.
Mais vous avez parfaitement raison. On est d'ailleurs en train de préparer une conférence à Lausanne sur la biologie de la religion. C'est vrai que la biologie, ça se fonde sur l'esclavage des gènes, c'est-à-dire que, d'après les théories biologiques, ce sont les êtres les plus adaptés à leur milieu qui survivent, et les autres sont éliminés par la sélection naturelle. Alors évidemment que la théologie, avec d'autres disciplines, on va dire morales, elle a quand même pour but de problématiser cette loi de la jungle et d'essayer de rendre l'humain un peu plus humain, plus proche d'une vérité qui soit autre que purement biologique. Mais alors après, bien sûr, sûr que certains douteront et diront que ça n'existe pas et qu'il n'existe que la biologie et que nous sommes que des paquets de gènes appelés à se reproduire de façon la plus systématique possible selon des lois statistiques. Et d'autres vont penser effectivement que dans l'être humain, il y a quelque chose d'autre que purement du matériel. Mais ça, on ne pourra jamais le prouver. Ça fait partie du pas de la foi que d'affirmer que dans l'être humain, il y a autre chose que de la biologie, qu'il y a un esprit. Mais ça, personne ne l'a jamais prouvé.
On va faire une petite pause, mais j'ai une question très courte, une réponse très courte. Est-ce qu'il vous arrive, Gilles Bourquin, de douter encore ?
Il m'arrive de douter parce que justement, mes 12 questions impertinentes dans mon livre, elles sont construites avec des réponses par oui, des réponses par non, puis des synthèses. Donc, croyant ou pas croyant, on est en train toujours de chercher à tâtons, comme le dit d'ailleurs la Bible. On recherche Dieu à tâtons et donc on doute dans le chemin de la foi.